Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Christophe Dickès qui animera cette émission Un jour dans l'histoire. Une émission qui va nous porter dans la première moitié du XVIe siècle pour retracer la vie d'un roi assez mal considéré par les historiens, le roi Henri II, fils de François Ier, époux de Catherine de Médicis. Et pour évoquer ce prince et ce monarque, j'ai le plaisir d'accueillir en notre studio de Canal Académie l'historien Didier Le Fur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous doit déjà une biographie de Louis XII, une de Charles VIII aussi, et une de leurs épouses respectives, Anne de Bretagne. Est-ce à dire, Didier Le Fur, que vous avez fait l'impasse sur François Ier, maintenant que vous traitez Henri II, François Ier, vous l'oubliez.
Non, mais François Ier est un règne long et on a déjà beaucoup écrit sur lui. Je pense sincèrement qu'on peut faire encore davantage, mais parce que ce règne est long, il doit être, à mon avis, découpé en portions afin qu'un jour ou l'autre, une biographie un peu plus nouvelle puisse se faire.
Parlons d'abord de l'image du roi Henri II. Je le disais à l'instant, c'est un roi que les historiens n'ont pas véritablement encensé. Ils en ont même dressé le portrait d'un roi un peu terne, un peu faible, influençable. Enfin, quelles sont les raisons de ce regard porté sur Henri II ?
Elles sont multiples parce que d'abord, c'est le fils d'un roi très charismatique, François Ier. Il a aussi une période tampon entre la période dite de la Renaissance, incarnée donc par son père, et aussi cette période plus tragique de l'histoire de France avec les guerres de religion. Donc ce règne relativement court de 12 ans correspond pour beaucoup, en tout cas, à une sorte de transition. Et comme en général les transitions sont abandonnées parce qu'elles ne sont pas systématiquement emblématiques d'une période, eh bien on s'y intéresse guère. C'est le même cas pour Charles VIII ou Louis XII d'ailleurs, puisque entre François Ier et Louis XI, il y avait cette période assez intermédiaire encore et qui avait été là, elle aussi, délaissée par les historiens. Or, tout a une suite logique et chaque maillon est nécessaire pour conduire la chaîne. Et travailler sur Henri II, c'était aussi une façon d'achever mon travail sur les guerres d'Italie, commencé avec Charles VIII.
Didier Le Fur, quelles ont été les sources qui vous ont servi pour publier ce livre Henri II, qui est publié aux éditions Talendier? Est-ce que ces sources sont-elles abondantes? Et sont-elles manuscrites essentiellement ou au contraire publiées?
Elles sont à la fois abondantes, mais finalement elles ont été aussi peu utilisées parce que le règne a été peu travaillé. Et elles sont peu manuscrites parce que l'imprimerie, depuis déjà les années 1500-1520, avait pris le pas sur le texte écrit. Enfin, les textes que j'ai utilisés sont souvent des textes de propagande, c'est-à-dire des textes qui ont été rédigés pour fêter, commémorer ou expliquer un événement précis. Et souvent, certes, ce sont des récits factuels, c'est-à-dire en gros, on raconte l'événement, mais aussi ces textes sont accompagnés de poèmes rédigés par des auteurs très connus aujourd'hui, Du Bellay, Ronsard, dont on a peu le souvenir que ces hommes ont écrit aussi pour une propagande royale, certes un peu pour François Ier, mais essentiellement pour Henri II.
Vous allez montrer donc que Henri II est un prince et un roi valeureux, un chef de guerre qui se montre fin stratège, un diplomate avisé, un gouvernant assez énergique finalement.
Oui.
Vous avez pris des sources nouvelles pour dresser un portrait nouveau de ce roi.
C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'était des sources, comme le personnage était déjà un peu en retrait dans l'imaginaire collectif actuel, et que c'était des sources qu'on avait peu utilisées, puisque ces auteurs dont je vous ai cité, c'est-à-dire Ronsard, Du Bellay, on avait de ces personnages donc une littérature amoureuse ou à la fois romantique, mais absolument pas politique. Or, tout ce matériel-là apportait énormément à l'image de Henri II, et donc construisait aussi son image de monarque, cette image de monarque qui correspondait à celle que Charles VIII, Louis XII et François Ier s'étaient déjà structurés, c'est-à-dire un prince bon, forcément, puisqu'on est dans une monarchie idéale en France à cette époque, enfin on le considère en tout cas, un prince qui a des ambitions aussi expansionnistes, puisque depuis Charles VIII, tous rêvent de conquérir l'Italie et de créer cet empire universel, programmé et annoncé par toute une série de prophéties, et ça depuis déjà le début de la guerre de Cent Ans. Et Henri II donc, se considère comme l'héritier de tout cela, et l'homme qui sera capable d'apporter cette espérance rêvée en France, c'est-à-dire un, la paix dans le royaume, deux, une expansion en Europe, et trois, la fin de toute hérésie au monde et le retour du Christ sur terre, puisque c'était le challenge qui s'était imposé.
Didier Le Fur, on va reprendre quelques dates majeures de la vie de Henri II. D'abord, il naît le 31 mars 1519 en second, après un frère aîné, donc on en conclut qu'il n'était pas destiné à régner a priori.
Non, absolument pas. Il était destiné à être un prince de France, comme pour beaucoup, c'est-à-dire en gros, on n'espérait pas du tout quelque chose sur lui, puisqu'il avait un frère aîné, ce petit garçon, donc qui était François, né en février 1518. Eh bien, cet enfant donc portait toutes les espérances de la monarchie. Il était l'aîné, il avait le même prénom que son père, et c'était donc sur lui qu'on espérait le prolongement de la monarchie. Henri, lui, est un personnage secondaire pendant toute son enfance, et c'est la difficulté aussi pour l'historien, puisque comme c'est un personnage secondaire, il n'intéresse pas donc la littérature, c'est sa vie est peu considérée, donc pour l'historien c'est un peu compliqué quelquefois de retracer et de réesquisser ces premières années d'enfance et d'adolescence.
C'est d'ailleurs assez étonnant qu'on lui donne le prénom d'Henri, qui n'est pas un prénom très porté par les rois. Enfin, il y a eu un Henri Ier, évidemment, je crois que c'était 9e siècle ou 10e siècle.
Mais c'est surtout parce que c'était, oui, un nom peu usé, et comme le nom des enfants royaux était encore en général celui de leurs parrains, comme c'était un nom peu usé, en général le prénom de Henri, comme il était rare, n'était pas du tout fréquent, et notamment chez les enfants royaux. Mais si Henri porte ce prénom, c'est tout simplement parce que François Ier a eu besoin, au moment de la naissance de Henri, en 1519, du soutien de Henri VIII d'Angleterre pour ses projets électoraux, notamment lorsqu'il a prétendu devenir empereur d'Europe par l'élection, en prenant la charge du roi des Romains. Eh bien, Henri VIII avait accepté de devenir parrain de ce cadet de François Ier et avait donc demandé à ce qu'il porte aussi son prénom.
Juste, on va dire un mot, pendant qu'on y est, aussi de ce François, qui est donc le fils de François Ier, qui aurait dû s'appeler François II, mais ce n'est pas lui qu'on appelle François II.
Non.
C'est un peu compliqué. C'est,
oui,
François de Valois, disons. Alors, ce François de Valois, il ne va pas finalement régner, puisqu'il va mourir jeune. Et c'est cela qui va donner la place à Henri II. C'est pour cela qu'il va pouvoir devenir roi.
C'est ça. Cet enfant grandit donc avec Henri, hein, ils sont ensemble dans les châteaux qui sont réservés aux enfants, c'est-à-dire Amboise, Blois et Saint-Germain-en-Laye. Et après cette période assez douloureuse qu'ils vont vivre ensemble entre 1526 et 1530.
On va en reparler, oui.
Très bien. Eh bien, donc, il y a cette union entre ces deux frères, ceux qui vivent régulièrement ensemble. Et en 1536, donc, François meurt d'une mort qu'on n'explique toujours pas. Empoisonnement, maladie, accident. Toujours est-il qu'en tout cas, la propagande royale, elle, a prétendu que c'était un meurtre. Et c'est à ce moment-là, donc, que Henri, alors qu'il était absent pratiquement de tout l'imaginaire collectif en France, devient un personnage principal en prenant le titre de dauphin.
Revenons en effet sur cette jeunesse d'Henri, qui est sa jeunesse très austère, puisqu'il va être prisonnier avec son frère François, comme vous venez de le dire, de Charles Quint, et il va vivre ses toutes jeunes années, c'est-à-dire lui, il a 5 ans, il va vivre prisonnier. Mais quelles étaient leurs conditions? Une prison vraiment très dure ou une prison un peu dorée?
Non, au début, absolument pas. Charles Quint avait l'espoir que François Ier respecte les accords dans lesquels il s'était engagé face au traité de Madrid. Et donc, les premiers mois et les premières semaines, en tout cas, c'était en gros des vacances en Espagne. Certes, ils étaient prisonniers officiellement, mais ils avaient une vie de prince comme ils auraient pu l'avoir à Amboise ou à Blois. À partir du moment où François Ier décide de ne pas respecter et de le déclare ouvertement le traité de Madrid, là, les conditions des enfants deviennent un peu plus sévères. Mais ils ont toujours leurs serviteurs avec eux, puisqu'ils sont partis en Espagne avec une soixantaine de personnes. Et même s'ils sont trimballés de château en château, de plus en plus dans les terres d'Espagne et de plus en plus donc loin de la frontière française, ils gardent quand même un statut de prince et sont toujours avec des serviteurs et peuvent poursuivre, recevoir en tout cas une éducation. C'est à partir des années 1528 lorsque François Ier tente un coup de force en Italie et que ce coup de force échoue, à Naples notamment, Charles Quint, lui, devient un peu plus sévère et après une tentative d'enlèvement des enfants faite par un seigneur français, et là, l'incarcération va devenir beaucoup plus dure. La dernière année de l'incarcération en Espagne est effectivement difficile puisqu'on les considère comme des prisonniers politiques. Et ces enfants donc, qui ont entre 7 et 9 ans, et à l'époque donc, de cette année particulière, 10 et 11 ans, eh bien, vivent comme de véritables prisonniers dans une prison.
C'est austère sans visite, pour sans, des enfants.
Voilà, sans visite, sans rien, sans éducation, et complètement privés de tout personnel, et notamment de tout personnel français.
Vous pensez que cela a joué sur le caractère d'Henri, qui après s'est montré un peu triste, il était un peu dépressif ou non?
C'est très difficile à savoir, parce que les choses, ces événements et ces sentiments, on ne nous les transcrit pas. Mm-hmm. Donc on peut intuitivement penser que 4 ans d'incarcération marquent forcément la destinée d'un personnage. Mais ces choses-là, les textes n'en parlent pas. Par contre, sur le côté taciturne, il s'explique d'une autre manière, c'est-à-dire que ça vient des explications astrologiques. C'est chaque enfant, chaque personnage, même si l'astrologie était officiellement interdite, l'astrologie était utilisée en médecine. On la gardait uniquement pour cette chose. Or, ça n'empêchait pas les médecins astrologues de faire quand même un peu d'art divinatoire avec cela. Et Henri était bélier, ascendant lion, mais avait un Saturne en maison 1. Et donc, en astrologie, un Saturne en maison 1 implique toute une série de caractères, et notamment quelqu'un de plus taciturne, quelqu'un de plus renfermé, quelqu'un de plus sérieux. Et cette image-là, sans peut-être qu'on connaisse vraiment le personnage, lui a collé à la peau pendant toute son enfance et son adolescence. Et tous les ambassadeurs italiens, notamment, parce que ce sont eux qui ont été les plus commères, si j'ose dire, sur ce sujet, se sont recopiés les uns les autres, ont entretenu cette légende d'un prince qui était toujours dans son coin, donc qui ne souriait jamais, qui était là à l'écart des gens et qui semblait sans grand caractère, ce qui s'est avéré complètement faux.
Et sans doute a-t-il été affecté aussi quand le 10 août 1536, donc son frère aîné, le dauphin François, justement, meurt. Ça a dû changer sa vie puisque lui, il devient dauphin. Et à ce moment-là, son père, François Ier, choisit de le marier à la petite nièce du pape, comme on sait, Catherine de Médicis. Alors on a un mot, bien que vous ne parliez pas beaucoup de Catherine de Médicis
non.
dans votre livre, en un mot, qui était Catherine de Médicis?
Catherine de Médicis, c'est donc une Italienne, une petite nièce du pape Farnèse Clément VII, et elle la vit, elle aussi, curieusement, elle a 15 jours de différence hein, avec Henri. Henri est né le 31 mars, elle est née le 14 avril. Elle est orpheline très tôt, quelques semaines après sa naissance, et va vivre presque parallèlement à Henri un destin assez similaire, c'est-à-dire en gros qu'elle va vivre comme une sorte d'enfant otage de la politique du pape, et puis aussi des restes du personnage de sa famille et des Médicis. Et pendant longtemps, elle va servir aussi de monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'elle va être promise, selon les aléas de la politique de Clément VII, à différents princes, soit en Italie, soit dans le reste de l'Europe. Et c'est finalement François Ier qui, déjà dès les années 1524, avait déjà envisagé le projet. Et après 1530, à la libération des enfants, donc va essayer de le réaliser. Et on a souvent parlé d'une mésalliance par rapport à cela, parce qu'on a toujours considéré
oui,
que Henri
pourquoi
était destiné forcément à régner. Or, non, il avait un frère, François, et Henri épouse Catherine de Médicis, ses enfants ont 14 ans, c'était en 1533, et c'était au contraire un statut extrêmement honorable pour un fils de France, d'épouser une femme italienne avec des droits sur un duché important, le duché d'Urbino, avec des droits sur Florence aussi, mais surtout avec des droits et un héritage concret en France, puisqu'elle était la seule et unique héritière de l'héritage Boulogne-Auvergne, et qui était un apanage important, avec des revenus à peu près de 10 000 livres par an. Et conserver ces terres au Royaume de France par un héritier français était essentiel à la politique de François Ier aussi.
Donc il l'avait effectivement bien vu. Didier
oui.
Le Fur, vous ne vous étendez pas, alors je ne vous en fais pas le reproche, mais tout de même sur les portraits féminins, justement. Alors très peu de choses sur Catherine de Médicis, mais encore moins sur Diane de Poitiers, qui a tout de même été la maîtresse d'Henri II. Alors pourquoi vous n'aimez pas les femmes d'Henri II?
Non, c'est absolument pas pour ça. D'abord parce que le livre déjà fait presque 600 pages en rien qu'en parlant que de lui, donc ça aurait fait peut-être un peu gros. D'autre part, Catherine de Médicis, pendant cette période, eh bien, a comment vous dire, un rôle extrêmement secondaire. Elle est l'épouse d'un cadet, d'abord, donc pratiquement inexistante, sans rôle réel. Ensuite, lorsqu'elle devient dauphine, elle n'a qu'un rôle de femme, là aussi, qui accompagne un futur hypothétique roi de France. On lui demande essentiellement de faire des enfants et des fils. Or, elle a de très grosses difficultés.
Ce qu'elle ne fait pas, oui.
À en avoir.
8 ans sans enfants.
Exactement. Après, par contre, elle va en faire pratiquement un tous les ans. Mais pendant très longtemps, il y a des problèmes gynécologiques qui entrent en ligne de compte et qui, du coup, l'empêchent d'en avoir. Et lorsqu'elle devient reine de France avec Henri II, elle n'a qu'un rôle, j'allais dire, de reine de France, c'est-à-dire de mère, de femme qui doit donc faire toujours des enfants, qui doit aussi apporter tout ce qu'on attend d'une reine de France à cette époque, c'est-à-dire faire œuvre de charité, œuvre de piété, mais en aucun cas d'un rôle politique. Elle est extrêmement en retrait par tout cela. Et quant à Diane de Poitiers, eh bien, certes, elle a été la maîtresse de Henri II, aux environs des années 1537-1538. Elle a 20 ans de plus que lui. Elle a déjà une vie avant. Mais le rôle que l'histoire lui a fabriqué est loin de la réalité. Si on veut être honnête et faire un véritable portrait sur cette femme, eh bien, on aura beaucoup de choses pendant la période de sa jeunesse avec son père et son mari, son premier époux. Mais son personnage de veuve, on aura essentiellement un rôle de mécène. Son rôle politique, il a été fabriqué par les opposants à Henri II et dès le vivant de ce prince, c'est-à-dire notamment par les protestants qui, parce qu'ils connaissaient l'existence de cette maîtresse, ont prétendu qu'elle l'influençait d'une façon mauvaise et que parce que ce roi était influencé par une méchante femme, et bien du coup, il avait fait lui aussi de mauvaises actions. Et peu à peu, cette légende noire qui s'est construite du vivant de Diane de Poitiers s'est amplifiée de plus en plus et qui elle s'est construite parallèlement à la légende noire de Catherine de Médicis, accrochant l'idée que les femmes au pouvoir ou proches du pouvoir étaient toujours une catastrophe. Et cette image a perduré jusqu'à très très récemment. En fait, pour être honnête, si on voulait faire un vrai joli portrait sur Diane de Poitiers, on n'aurait vraiment pas grand-chose. Et quant à leur histoire d'amour, même si elle est évidente, ils n'ont pas toujours été non plus amants pendant toute cette période. Ils l'ont été pendant une période relativement courte, au moins jusqu'à ce qu'ils deviennent rois et peu après. Mais c'est vrai qu'elle est restée une amie, elle est restée une confidente. Elle a eu probablement un rôle de mère aussi, en tout cas parce que Henri avait perdu la sienne très tôt, Claude de France. Il n'avait même pas 5 ans. Et l'autre femme qui aurait pu jouer un rôle important, c'est-à-dire sa grand-mère, Louise de Savoie, elle était morte alors qu'il n'était pas encore rentré d'Espagne.
Avec Didier Le Fur, nous évoquons la figure d'Henri II. Jusqu'à présent, nous avons évoqué Henri II, le prince. On va marquer une courte pause et on va aborder ensuite Henri II, le roi.
Le photographe Yann Arthus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts se livre au micro de Canal Académie. Retrouvez-le dans notre émission En habit vert. Il évoque son parcours et les projets de son association Good Planet au service de la défense de l'environnement. Téléchargez également sur notre site l'installation de Yann Arthus Bertrand sous la coupole et découvrez en fin d'émission les détails de son épée originale. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Retour dans notre studio avec Didier Le Fur qui vient de publier une biographie du roi Henri II aux éditions Talendier. Jusqu'à présent, nous avons parlé du prince Henri. On va parler maintenant du roi. Le 31 mars 1547 meurt François Ier. Et je dois dire que les premières mesures que Henri prend en tant que roi sont quasiment une purge, non ?
Oui, effectivement. Le mot est juste. Donc Henri a 28 ans, le 31 mars 1547, et immédiatement, même s'il y a officiellement une période de 40 jours de deuil nécessaire et obligatoire, et que le roi de France ne peut être déclaré qu'une fois que
l'autre est enterré,
il n'y a absolument aucune vacance du pouvoir, et Henri donc commence à construire son gouvernement. Ce gouvernement, donc, pour le bâtir, il va prendre les gens qu'il connaît le mieux, qui l'ont toujours protégé alors qu'il était dauphin. Et c'était une situation qui avait été plus ou moins difficile puisque Henri Dauphin avait été écarté la plupart du temps des grandes décisions du règne. Et sa situation en 47, lorsqu'il devient roi de France, était assez étroite. Et lorsqu'il prend le gouvernement, eh bien, il fait appel à tous ceux qui l'avaient soutenu depuis son enfance ou son adolescence, c'est-à-dire essentiellement Anne de Montmorency et la famille des Guises. Et ces personnages-là avaient été soit disgraciés, comme comme Montmorency, sous le règne de François Ier, soit jouaient encore des rôles relativement secondaires. Et bien, toutes les personnes donc, qui avaient tenu les rênes du pouvoir sous François Ier pendant les 10 dernières années du règne de celui-ci sont écartées du jour au lendemain. Et Henri, donc, place ses hommes. En fait, c'est comme un gouvernement après un président de la République aujourd'hui, où même si on en a toujours l'impression
de continuité,
on change de gouvernement.
On exactement. Change les gens. Donc, ça va de nouveau donner de l'importance au connétable de Montmorency et aussi une grande importance à la famille des Guise, ce qui aura un rôle et une influence sur les années après. Est-ce que vous pensez que, justement, Henri II a donné trop d'importance aux Guise ?
C'est très difficile à définir tout cela, parce que Anne de Montmorency était essentielle de par son passé militaire, d'homme de guerre, et d'ailleurs il était connétable, et grâce à toute son expérience politique. Les Guises en avaient aussi de l'expérience politique, mais les Guises étaient des Lorrains, donc des étrangers. Sauf que cet état tampon de la Lorraine était essentiel pour maintenir une sorte de distance avec l'Empire, et notamment avec les armées de Charles Quint. Garder et conserver les Guises, les protéger même, était une façon de se trouver un allié supplémentaire de poids, même si d'un point de vue territorial, ce n'était pas si important que ça, mais d'un point de vue politique, c'était essentiel. Et donc, Henri II a toujours joué, pendant tout son règne, une sorte d'équilibre quelquefois un peu dangereux entre les deux partis, le parti de Montmorency et le parti des Guises. Un parti de Montmorency qui était assez clément, peu désireux toujours de faire la guerre, et un parti de Guise, par contre, beaucoup plus belliqueux, autant dans l'idée d'une France expansionniste que dans ce qui va se passer par la suite, après, dans la répression anti-protestante.
Didier Le Fur, dans votre livre, vous insistez très longuement et à plusieurs reprises sur les entrées solennelles du roi à Lyon, à Rouen, à Paris. Pourquoi avez-vous tant détaillé ces festivités ?
Elles sont essentielles parce que ce sont des moments qui permettent aux habitants, aux Français, aux Parisiens, aux Lyonnais, aux Rouennais, ou plus généralement aux gens qui vivent en Île-de-France, en Normandie ou dans toute la région du Rhône, d'approcher le roi et d'approcher aussi tout un imaginaire. D'autre part, ces spectacles proposés lors de ces journées particulières étaient de véritables programmes politiques. Certes, des textes étaient publiés annonçant les projets du roi, ses ambitions et ses espérances. D'autres étaient publiés en attente des espérances et des réformes que le roi pouvait imaginer faire et créer. Mais c'est encore une société encore essentiellement orale et très sensible au paraître. Et donc, du coup, ces cérémonies permettaient au roi de se présenter sur son meilleur jour et aux gens des villes qu'il visitait de proposer soit des réformes, soit des espoirs qui étaient liés davantage à des histoires d'impôts ou alors davantage aussi à une confiance qu'on donnait à ce prince qui venait d'arriver, qu'on ne connaissait pas. C'était une façon, en gros, de rassurer une population, de proposer un programme politique pour le roi et pour la ville, de faire quelques doléances.
Quelle a été la position de Henri II par rapport à la religion réformée ?
Elle a été catégorique et très ferme dès le départ. Il s'est présenté comme catholique et il l'a toujours été. Et même si pendant longtemps, comme son père, il a davantage encouragé, j'allais dire, une politique spectacle face à ça. C'est un peu difficile à dire sur ces mots-là, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en gros, on fait des processions, on monte quelques bûchers, on brûle quelques protestants. Mais finalement, on n'est pas encore dans une logique d'épuration, d'expulsion et de destruction totale de l'hérésie protestante définie telle par la monarchie. Tous les réformés de l'époque, sont, même s'ils sont en danger potentiel, vivent davantage, plus librement en tout cas que dans les années qui vont suivre et surtout peuvent aussi diffuser davantage aussi leur foi ou leur croyance. Puisque sous le règne de Henri II, le calvinisme notamment s'est largement développé et d'ailleurs ce mot qu'on appelle calviniste date des années 1552 si je me souviens bien et va se développer notamment en France. On va déjà faire une différence entre luthérien et calviniste. La haine contre les luthériens était très violente. Contre le calviniste, il y a eu une attitude un peu différente, plus attentive. Et c'est surtout parce que cette réforme donc, de la religion chrétienne va séduire aussi autant les petits que les grands, et notamment l'entourage de Montmorency, puisque ses neveux vont tous être protestants, va permettre aussi une sorte de retenue, en tout cas pendant un temps, face à cette évolution. Je dis un temps, puisque dès que la guerre avec Charles Quint et Philippe II sera achevé en 1559. L'idée de faire une grande purge a été clairement envisagée et on peut supposer, mais là, faut faire attention à la politique fiction, que l'imaginaire de Henri II et des ducs de Guise, puisque c'est et des cardinals de Lorraine, puisque ils ont été très très actifs dans cette idée d'envisager cette expulsion, eh bien pouvait ressembler à celle que Philippe le Bel avait fait en 1306 avec les Juifs.
Didier Le Fur, pour bien comprendre un peu les stratégies de Henri II, il faut comprendre, je crois, qu'il n'a qu'un ennemi, un seul. C'est l'empire de Charles Quint. Enfin, je dis l'empire parce que après c'est son fils, mais enfin c'est la même chose.
Oui, on
finalement
peut rajouter aussi l'Angleterre dans une moindre mesure, mais quand même elle est importante, et notamment avec Marie Tudor, puis après avec Élisabeth. Mais c'est vrai que l'empire de Charles Quint est une menace.
C'est la menace.
Est une menace réelle. C'est une sorte de cercle de fer comme ça,
de l'Espagne à l'Espagne,
voilà,
oui, c'est ça.
Dans l'autre sens, si vous voulez.
Dans l'autre sens.
Et qui bloque complètement ce territoire de France qui est menacé, mais qui finalement résiste parfaitement bien, autant dans ses frontières que dans ses ambitions, puisque les ambitions expansionnistes de Henri II ont toujours été maintenues.
Elles vont s'exercer dans quel pays, ces ambitions expansionnistes ?
Alors elles vont commencer en Italie, parce que ce sont les droits réclamés par Charles VIII et Louis XII qui vont servir Henri II pour justifier justement cette ambition. Et puis parce que justement la présence de Charles Quint en Italie est devenue aussi pratiquement omniprésente, eh bien très vite on va commencer à se dire qu'il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs. Et la possibilité de l'Angleterre s'est ouverte à ce moment-là. Ce rêve de conquérir l'Angleterre, il est très 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 ancien. Le mariage de François, du fils aîné de Henri, François, qui va devenir François II, avec Marie Stuart, va aider justement à pouvoir envisager plus sérieusement l'idée de conquérir l'Angleterre, d'autant que cette nouvelle reine, en 1558, qui est Élisabeth, est loin d'être une très 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 bonne catholique, et que l'idée donc de la dénoncer comme une hérétique pouvait encore favoriser davantage l'idée de conquête de l'Angleterre.
C'est pour ça que Henri II va choisir de soutenir Marie Stuart et l'Écosse, donc.
Ah oui, stratégiquement, c'est essentiel.
Les catholiques, évidemment. Voilà. Et donc va envisager de donner son fils François II à Marie Stuart. Est-ce que ça va se faire, ce mariage, ou est-ce que a été un projet seulement ?
Non, c'était une longue ambition. François Ier l'avait déjà envisagé dès le début des années 1540. Henri II, devenu roi, va le poursuivre. La campagne d'Écosse au début du règne va être un véritable succès, puisque la petite Marie va être sauvée par les soldats français, puis va vivre à la cour de France, comme une petite princesse destinée un jour à régner. Et les Écossais donc vont se soumettre à cette présence française pendant plusieurs années. Et en 1558, donc, lors du mariage de François et de Marie, à un moment où ils ont l'âge de se marier, eh bien, va sonner le glas de la fin de l'indépendance possible de l'Écosse, puisque l'Écosse devenait un second royaume pour la France, et un second royaume en tout cas pour François et Marie, et donc si leurs enfants, l'enfant qui devait naître de leur union, eh bien, aurait été roi de France et roi d'Écosse.
On revenait à une vieille histoire.
Voilà.
Et alors, quelle a été dans ces stratégies la position de Henri II par rapport aux grands Turcs ? On connaît celle de François Ier, et donc son fils Henri II a-t-il eu la même disposition ?
Elle a été tout aussi ambiguë. À la fois, il le rejette officiellement, puisqu'il est très chrétien, il est fils aîné de l'Église, il ne peut absolument pas s'associer ouvertement à un païen, à un hérétique, mais il y a des accords, puisque ce grand Turc est compris dans des traités de paix. Il y a des ambassades régulières, il y a des soutiens militaire, puisque lorsque notamment Henri II va conquérir la Corse et tenter une escapade à Naples, eh bien il aura besoin du support maritime du Grand Turc et de Soliman, et Soliman va lui l'apporter. D'autre part, Soliman soutenant le roi de France était une façon aussi d'affaiblir un peu la puissance de Charles Quint en Méditerranée, qui elle était devenue aussi très puissante.
Oui, ça reste toujours l'objectif, affaiblir l'Espagne. Avec Didier Le Fur, nous allons marquer une courte pause avant de reprendre la dernière partie de la vie du roi Henri II, qui fait l'objet de son livre publié chez Talendier.
Retrouvez nos émissions consacrées à l'histoire en compagnie de Christophe Dickès dans notre émission Un jour dans l'histoire. Témoins, acteurs, les plus grands historiens contemporains sont invités sur Canal Academy à partager leurs points de vue, leurs analyses, leurs travaux historiques. Découvrez également les rubriques éphémérides et portraits. Éphéméride revient sur une date charnière de l'histoire. Les portraits sont consacrés aux personnages influents. Toutes ces émissions sont sur Canal Academy en libre téléchargement.
Nous retrouvons Didier Le Fur dans notre studio et nous continuons à parler du roi Henri II. Henri II, finalement, s'est montré un chef de guerre valeureux, un stratège intelligent. Et d'ailleurs, il a remporté quelques grandes victoires. Quelles sont les victoires essentielles, parce qu'on ne va pas parler de toutes ces guerres, qu'il a remportées au nom de la France et qui ont été bénéfiques pour la France?
Oui, parce que son règne est court, de 12 ans, mais ce n'est quand même que 12 ans de guerre. Donc, pour aller à l'essentiel, eh bien, il y en a une très symbolique, c'est la reconquête de Boulogne, dès le début de son règne, puisque c'était une ville qui avait été perdue par son père quelques années plus tôt. Et Henri avait toujours considéré qu'il y avait eu maldonne et trahison du côté français. C'était l'une des raisons pour lesquelles aussi il avait été excessivement sévère avec certains personnages du règne qui entouraient son père à son avènement et qui justifiaient donc leur éviction. C'était aussi Calais, parce que ce point stratégique occupé depuis 210 ans par les Anglais leur permettait régulièrement de venir en France faire quelques razzias, nous faire un peu peur et réclamer de l'argent avant de partir. Et le fait de cette victoire remportée par
Guise... Il a fait
Guise,
le siège de Calais pour remporter
Pas lui, c'est le duc de Guise qui l'a fait.
Ah oui.
Et en 9 jours, ça a été fulgurant, ça a été épatant. Il y a eu une quantité de rois avant qui avaient tenté de le faire et ça avait été des échecs assez cuisants. Là... c'était miraculeux, en 9 jours, c'est vraiment, parce que c'était une ville excessivement fortifiée, très puissante, et donc en un temps record, cette ville est tombée, et c'était aussi une façon de célébrer la fin d'une hypothétique invasion de l'Angleterre, comme elle le rêvait toujours, comme Henri VIII l'avait rêvé à un moment quand... François Ier était prisonnier à Pavie et avait imaginé reprendre la couronne de France. Et bien ce rêve anglais, du coup, avec cette prise de Calais, devenait complètement caduque. Et en France, ça a été un énorme soulagement. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça a été extrêmement symboliquement...
C'était très emblématique.
Voilà, exactement.
C'est certain.
Et puis il y a eu quelques autres victoires là aussi emblématiques, mais importantes dans l'histoire du royaume par la suite. C'est la conquête des trois évêchés, c'est-à-dire de Metz, Toul et Verdun, qui sont devenus français à partir de cette période.
Il y a une date fatidique dans la vie de Henri II, c'est le 30 juin 1559. Il participe à un tournoi et on sait que il reçoit un coup de lance. Quelle idée aussi pour un roi de participer à un tournoi? Pourquoi a-t-il accepté?
Parce que c'était dans une logique. Un roi de France, son premier devoir est de défendre le royaume, ses frontières et sa population. Donc il doit toujours montrer qu'il est un bon guerrier. Alors soit il va à la guerre, le seul problème c'est que depuis Pavie, on évitait de mettre les rois de France à la bataille puisque ça avait eu des conséquences assez dramatiques. Donc, même s'il pouvait être proche, il ne se battait plus. Mais par contre, symboliquement, lors de tournois, eh bien, même si officiellement, on avait toujours beaucoup, on dit que c'était dangereux, que c'était difficile de s'exposer de cette façon, depuis au moins Charles V, eh bien, Henri II avait régulièrement, en tant que cadet, puis en tant que dauphin, participé à ce genre de jeu de guerre, de dit de paix. Et en 1559, pour célébrer la paix du Cateau-Cambrésis, qui célébrait la fin de 40 ans de guerre avec l'Empire, eh bien, Henri II n'a pas pu résister et a voulu montrer, là aussi, que même s'il faisait la paix et s'il abandonnait des territoires dits stratégiques, il se montrait aussi vaillant chevalier et un guerrier potentiel si ce pays, après, était attaqué. Donc, en gros, c'était assez symbolique parce que c'est pas simplement un jeu d'orgueil, c'est aussi une façon de montrer au peuple de France, même si on signait donc une paix, eh bien, que ce roi restait quand même un bon militaire et un bon guerrier. Le seul problème, c'est que le dernier jour du tournoi, au dernier combat, eh bien, il y a eu cet accident fatidique qui a causé sa mort 10 jours plus tard.
Un coup de lance. On imagine d'ailleurs que le chevalier qui lui a donné devait être fort ennuyé.
À Montgomery, oui, bah c'est terrible parce que ça pouvait s'associer à une sorte de crime. Et finalement, Henri II, en tout cas d'après ce qu'on a dit, eh bien, aurait pardonné tout de suite. Ça, il faut toujours se méfier de ses propos, donc il faut les mettre entre parenthèses. Je ne suis pas sûr qu'il soit très, très conscient à ce moment-là.
En tout cas, on n'a pas mis en doute la thèse d'un accident. Ça n'était pas voulu, ce coup de lance dans l'œil, dans le crâne, n'a pas été voulu.
Au XVIIe et XVIIIe, certains historiens ont prétendu que finalement, c'était une manigance, et que, notamment des protestants, et que, parce que Montgomery va devenir protestant par la suite, et que c'était une façon de lutter contre la tyrannie des rois de France catholiques. C'est une question d'opinion comme ça qui n'a pas été très très durable. Non, c'est un accident tout bête.
Didier Le Fur, nous arrivons à la fin de cette émission. S'il fallait dresser un bilan des 12 années de règne 1547-1559, que diriez-vous alors du bilan du règne d'Henri II ?
Eh bien, c'est un règne plutôt positif. Il est court, il est très court. Parce que généralement, un roi de France règne entre 15 et 17 ans. À part François Ier qui, lui, a eu un règne exceptionnellement long, pour l'époque en tout cas. Mais c'est un règne très dense et conduit par un prince jeune, puisqu'il a entre 28 et 40 ans. C'est un règne aussi qui a conservé une idée de la France puissante, une idée d'une France soucieuse de son image à l'extérieur et qui n'hésite pas à se promouvoir comme déjà, c'est toutes ces idées qui sont toujours aujourd'hui dans cette image de France soucieuse des droits de l'homme et des libertés de chacun. Et bien, Henri II, lui, comme Louis XII et plus légèrement comme François Ier, s'était déjà présenté comme le libérateur des tyrannies et notamment de la tyrannie de Charles Quint. Cette idée du défenseur de l'opprimé, cette idée de l'homme qui fait la guerre mais dans une juste querelle et toujours dans l'idée de protéger le plus faible. C'est un prince qui s'est construit une image extrêmement clémente aussi, même si ça n'a été qu'un règne de guerre. Et d'ailleurs, les propos et tous les poèmes qui ont paru après sa mort, montrait toujours cette idée de prince amoureux de ses sujets, amoureux du peuple de France et amoureux de tous les opprimés.
Merci Didier Le Fur de nous avoir éclairé sur ce personnage. Je rappelle que votre livre Henri II est paru aux éditions Talendier et dans la foulée, on peut lire, quand on aime cette période, votre livre sur Louis XII, celui sur Charles VIII et même Anne de Bretagne. Comme ça, on aura fait presque l'ensemble de la famille.
Voilà.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup.